grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Chaque année, à travers le monde, plus de 32 milliards de bouteilles de vin sont dégustées. C'est devenu la boisson universelle, appréciée à travers le monde, devant la bière ou le whisky. Mais le vin est-il un alcool comme les autres? Non, selon le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume. Bien sûr que oui, selon certains médecins, addictologues en tête. Nous verrons quels sont les arguments des deux camps. Et puis nous retracerons la passionnante histoire de cette boisson produite partout dans le monde. La viticulture, qui est née au Moyen-Orient, a trouvé son terroir béni des dieux en France, les Bordeaux, Champagne et Bourgogne étant bien sûr parmi les vins les plus réputés. Nous verrons pourquoi le jus de raisin fermenté a connu un tel succès, quels sont les pouvoirs ensorcelants de ce breuvage, pourquoi le vin est-il la boisson de la convivialité qui délie les langues, enflamme l'imagination et accompagne les mets les plus divers. Avec nous ce matin pour évoquer le breuvage préféré de Bacchus, le journaliste et écrivain Benoît Sima, qui publie l'incroyable histoire du vin, et le professeur Amine Benyamina, addictologue et chef du service psychiatrie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Pensez-vous que le vin est un alcool comme les autres? Quel rapport entretenez-vous avec ce breuvage? 01 45 24 7000, sans oublier l'appui France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Guy Metodicino.
Bonjour Ali.
On retrouve chaque vendredi votre esprit d'escalier. Je crois que sur notre question du jour, votre religion est faite.
Oui, absolument, c'est pas mais c'est pas gentil de me dénoncer d'emblée. Mais je vais surtout pouvoir enfin me venger. La fille du Sud que je suis va boire du petit lait.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Le vin, c'est d'abord un plaisir de le boire, d'abord de le faire rouler sur sa langue, sur ses papilles, de le déguster, de le flairer, de le boire. Et le vin vous donne quand même du tonus, vous donne du plaisir, vous apporte la sensualité au moment où vous l'avez dans la bouche, où vous le respirez. Donc c'est d'abord ça, le vin. Et puis après, il y a une autre dimension, une dimension historique et œnologique, c'est-à-dire que la connaissance des vins, leur mérite comparé, l'histoire des grands vins, l'histoire des appellations, des climats, par exemple en Bourgogne, tout ça c'est quand même un grand tout culturel. C'est de l'histoire, c'est de la religion, c'est de la philosophie, c'est de la musique, c'est de la peinture, c'est de la chanson, c'est plein de choses le vin.
Défense et illustration du vin par Bernard Pivot, l'auteur du dictionnaire amoureux du vin. Le vin est-il un alcool comme les autres? Pour répondre à cette question, Benoît Sima, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc journaliste et auteur d'une très bonne BD publiée aux Arènes, l'incroyable histoire du vin, de la préhistoire à nos jours, 10 000 ans d'aventure. Bonjour professeur Amine Benyamina.
Bonjour Ali.
Vous dirigez le service psychiatrie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif et vous êtes addictologue. Alors, Benoît Sima, le vin, c'est la boisson la plus universelle. Plus de 32 milliards de bouteilles de vin vendues dans le monde selon des chiffres de l'Organisation internationale du vin en 2017.
En tout cas, c'est la boisson qui suscite le plus de passion dans le plus grand nombre de pays au monde actuellement, c'est vrai. C'est pas forcément en hectolitres la boisson la plus consommée. Je pense que les baijiu chinois ou la bière originaire d'Europe centrale sont sans doute en volume des boissons qui sont plus consommées. Mais le vin suscite une passion qui est le résultat d'une très très longue histoire qui se compte en milliers d'années.
Si le vin n'est pas une boisson comme les autres, pour vous, c'est peut-être parce que son destin dans l'histoire du monde est assez extraordinaire.
Bah, effectivement, l'histoire du vin, c'est l'histoire d'une passion. Cette passion est très ancienne et elle a occupé les oligarchies et les autorités religieuses depuis le départ. Et on est abouti à une forme de démocratisation de cette boisson au moment où les sociétés se sont démocratisées. Donc c'est vrai que c'est l'histoire d'un désir, d'une passion, de quelque chose d'un peu déraisonnable, mais qui a été un moteur dans l'histoire de cette boisson. Et cette histoire n'existe nulle part ailleurs sur les autres catégories de boissons, si vous voulez.
La question que vous posez dans votre BD, c'est pourquoi le jus de raisin fermenté a-t-il eu un tel succès à travers le monde et à travers l'histoire?
Et c'est une histoire assez étrange, en fait, au départ. L'homme a domestiqué la vigne, a inventé la viticulture au Moyen-Orient, il y a très longtemps. Et tout de suite, cette boisson a suscité une espèce d'étonnement. C'était une sorte de potion magique au départ, parce qu'on connaissait pas les mécanismes de l'ivresse. Et donc les anciens, je vous parle de ça il y a très très longtemps, hein, on parle d'il y a 6000, 7000, 7000, 8000 ans, enfin c'est vraiment les proto-civilisations du monde. Les autorités au départ se demandaient pourquoi il y avait ce phénomène de l'ivresse, et on l'interprétait comme le seul moyen de communiquer avec les puissances supérieures, avec les dieux. Et c'est un peu les débuts de cette passion historique.
L'explication du succès du vin reste en grande partie mystérieuse.
Ça reste pas mystérieux. À partir du moment où on avait un véhicule pour communiquer, encore une fois, avec les puissances supérieures, cette recette s'est transmise du Moyen-Orient à l'Égypte, puis à la Grèce antique, puis à la Rome antique, puis au peuple gaulois, puis etc., etc. Et en fait, l'histoire du vin, c'est l'histoire d'une longue conquête planétaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Chine, qui est la deuxième économie du monde, est le premier client des vins de Bordeaux.
Dans Un sacré gueuleton, Jim Harrison cite Ben Franklin, « Le vin est la preuve quotidienne que Dieu nous aime et veut notre bonheur. » Si on n'est pas croyant, on remplace Dieu par autre chose, évidemment.
Mais pour les amoureux du vin, le vin est une sorte de religion, parce que c'est en ça, j'anticipe un peu sur le débat de tout à l'heure, mais que c'est une boisson qui a un statut différent. Il y a un côté raisonnable et déraisonnable à la fois dans le vin, si vous voulez. On se dit qu'on peut en abuser un petit peu parce que voilà, c'est pas trop violent. Et puis il y a cet argument culturel, cette histoire dont on parle qui est réelle, hein, et qui a toujours passionné à la fois les puissants et le peuple. Et c'est pour ça que le vin est cette boisson un petit peu qui est partie à la conquête du monde et qui a achevé cette conquête du monde.
Professeur Amine Benyamina.
Moi, j'adhère totalement à ce que je viens d'entendre. De toutes les façons, depuis quelque temps, on nous fait un procès en sorcellerie.
Qui vous?
Ah bah écoutez, un certain nombre de défenseurs acharnés faisant abstraction de ce que vient de dire de manière très sibylline mais intéressante l'autre face du vin, bah c'est un alcool. C'est un alcool comme un autre, et évidemment la consommation du vin peut engendrer évidemment des dommages. Alors évidemment, je tombe à plat, je me sens un peu isolé, pas complètement. Il n'y a pas de problème, d'autant que j'apprécie beaucoup Bernard Pivot, mais je pense qu'il y a un aspect qu'il a oublié, et ben c'est que le vin, pas que le vin, l'alcool en général, fait 50 000 morts en France. Et donc cet aspect d'information importante, au-delà du caractère épicurien, hédonique, moyen-oriental, tout ce qui est formidable, doit être modéré par des messages d'information qu'en France, il est très difficile de faire passer.
Vous anticipez le débat, Amine Benyamina, on y reviendra tout à l'heure. Guimet Odissino, à quoi associez-vous le plaisir de boire un verre de vin?
De passer après monsieur le professeur, du coup j'ai l'impression de défendre le plus grand des vices. Je pense que c'est très très bien expliqué dans votre bande dessinée. Il faut quand même se dire effectivement que ce qu'on comprend dans votre bande dessinée, c'est que ce n'est pas simplement le vin qui a conquis le monde. En fait, c'est l'ivresse. Je suis désolée, professeur, c'est l'ivresse qui a conquis le monde. Puisque c'est l'ivresse qui fait croire aux gens qu'ils communiquent avec les dieux. Et c'est vrai que, alors, cette douce ivresse, cette manière de décoller ne serait-ce qu'un tout petit peu, et là on ne parle pas vraiment de bon, faut être clair, de se bourrer la gueule, hein. C'est vraiment cette espèce d'état un tout petit peu suspendu. Et surtout, cette communication, ça permet une communication plus aisée avec les autres. Vous disiez, Alice, ça délie la langue, mais c'est vrai que dans un dîner, entre amis, avec l'homme qu'on aime, il y a tout d'un coup quelque chose qui advient.
et d'ailleurs, dans son dictionnaire amoureux du vin, Bernard Pivot écrit qu'il existe une expression qui traduit bien le rôle social du vin, vin d'honneur. Demande-t-on de l'honneur à l'eau, au whisky, au pastis, au Bloody Mary?
Oui. En fait, le vin a toujours été un facilitateur social. Et ça vaut pour l'Égypte du 4e millénaire avant Jésus-Christ, comme pour la France de 2019. Ça a toujours été la même histoire. Alors, toute la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce facilitateur? Voilà, mais ça, c'est le débat de tout à l'heure.
Amine Benyamina.
Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Guillemette. C'est vrai que l'ivresse est extrêmement important et la référence au Moyen-Orient est très importante. On a l'opium, le cannabis, le vin, tout vient de cette région du monde. Et c'est vrai que la référence à l'ivresse est importante et la référence au mysticisme est plus qu'à la religion. Et on le sait bien. En revanche, et là je vous rejoins, le vin, par rapport à tous ces produits, a organisé une culture particulière autour de lui et qui a changé de visage au fil de son voyage dans le temps. Et vous voyez très bien que maintenant, si on parle du vin au Moyen-Orient, on a le sentiment de tomber à plat. En revanche, on a le sentiment que le vin a toujours été très français, ce qui est faux.
Guillemets Todisino.
Oui, c'est vrai que dans votre livre, on voit à quel point c'est aussi un voyageur et un dénominateur de civilisation. C'est fou, quoi, que ce soit passé de l'Égypte et après. Bon, déjà rappelons que Dioniso s'est quand même sorti de la cuisse de Jupiter. Hein, pardon. Moi, je l'ai appris. Hein. Ouais. Pourtant, je croyais m'y connaître en mythologie. J'avais oublié ce petit détail.
Le dieu du vin, l'ivresse.
Le dieu du vin. Donc, comme il incarne au sens propre vraiment le vin est sorti de la cuisse de Jupiter. Donc, il y a tout de suite une connotation divine, mais qui après se reproduit dans les autres religions, et le vin est un marqueur fort de chaque civilisation. Après, ça va devenir en plus un marqueur de territoire,
de terroir,
donc il est géographique, oui, c'est ça qui est fou aussi, c'est qu'il est identitaire.
Ce qui est très important dans l'histoire du vin, et ce qui résume, je crois, ces 10 000 ans d'aventure, c'est que le vin a toujours été au centre des civilisations dominantes. Pourquoi je vous parle de la Mésopotamie, pourquoi je vous parle de l'Égypte, de la Grèce antique, de Rome, etc., etc. C'est parce que ce sont les civilisations dominantes de leur époque, et à chaque fois, les élites de ces civilisations voulaient dominer le marché du vin, et surtout posséder les meilleurs crus pour eux-mêmes. Puisque les notions de crus anciens sont très antiques. Par exemple, vous savez, les classements des vins de Bordeaux, on parle toujours du classement 1855 comme le premier des classements, mais en fait, c'est le dernier. Donc les Bordelais, comme d'habitude, racontent n'importe quoi. Le premier classement,
il y a un autre débat.
Le premier classement de l'histoire est celui de Pline l'Ancien, le fameux philosophe et naturaliste romain, qui au 1er siècle de notre ère a établi la première liste des 23 crus, grands crus et crus classés de l'Italie de l'époque.
Le vin est-il un alcool comme les autres? Les Bordelais peuvent appeler en masse ce matin au 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. À la préparation de cette émission, la Bordelaise, Claire Destacan et Antoine Vandeville, avec l'aide de Nicolas Bove. À la réalisation, Stéphanie Texier. Marvin Gaye, ça fait du bien ça, Guillemette Odissino. Hein,
ah oui, c'est de l'ivresse non alcoolisée, Ali.
Ferme bouchon.
Grand bien vous fasse.
Je peux pas boire un peu d'eau quand même, ça te ferait du bien.
C'est pas fou. C'est pas fou.
sur France Inter.
10h21, le vin est-il un alcool comme les autres? Et pour bien comprendre les choses, on retrace son histoire ce matin avec le journaliste et auteur de la BD L'incroyable histoire du vin, Benoît Sima, et avec nous également la dictologue Amine Benyamina. Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000.
C'est un bruit infernal, le bouillonnement des cuves. C'est-à-dire, on mettrait des micros au-dessus du bouillonnement des cuves, on entendrait la terre battre. Hein. Mmh. C'est le fond de la terre, c'est tout ce qui bat. Hein. C'est extravagant ce qui peut se passer.
C'est ça qui vous plaît à tous les deux dans le vin.
Mais c'est tout ce qui entoure aussi le vin. C'est aussi le verbe, c'est aussi ce que ça engendre, c'est aussi le mystère, c'est aussi la magie. Un vigneron qui est en train de faire de vinifier son vin, c'est un artiste. Vraiment, je vois Dominique, il ne dort plus de la nuit. Il va se réveiller, il va parler à ses cuves, il va faire des choses. On fait des choses de fou. De même que un peintre peut faire des choses de fou. Ça, et puis tout ce que ça engendre aussi, la convivialité, je me souviens, la cuisine. Le vin nous amène à des réflexions qui sont essentielles.
Extrait de l'émission Synergie en 1994 avec Gérard Depardieu et Jean Carmet. Petite réaction à Benoît Sima?
Écoutez, quand Depardieu parle du rôle du vigneron, en fait, c'est un art très ancien et encore une fois, il faut remonter à une dizaine de milliers d'années pour voir les premiers débuts de la vinification. Et avant ça, en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé, comment, avant de domestiquer la vigne, l'homme a inventé la vigne, enfin constaté que la vinification se faisait naturellement, puisque le raisin, c'est un fruit qui va macérer naturellement au soleil, et c'est sans doute comme ça que ça s'est passé, voilà, fort longtemps, mais voilà.
Mais selon la Bible, le premier homme à cultiver la vigne et à s'enivrer, c'est Noé.
Oui, c'est Noé. Alors d'ailleurs, c'est très important cette parabole dans le livre sacré, parce que l'eau est beaucoup plus absente que le vin de l'Ancien Testament. Je crois me souvenir qu'on avait répertorié environ 150 références du vin dans la Bible, et l'eau, il y en a beaucoup moins. Et c'est dire que cette métaphore est fondamentale dans le texte sacré, et en fait, elle représente les débuts de la vinification tels qu'on les imagine à l'époque.
Les hommes du Néolithique, il y a près de 12 000 ans, connaissaient-ils la fermentation du jus de raisin?
Alors, en fait, ils la connaissaient pas, parce que c'était impossible à expliquer, mais ils l'ont sans doute... On l'imagine, hein, les archéologues l'imaginent, on l'a sans doute constaté un jour, des raisins sauvages, l'espèce de raisin sauvage qui existait au Moyen-Orient à l'époque, qui existe toujours d'ailleurs, s'est mise à fermenter au soleil. Un jus s'est formé et puis un Cro-Magnon s'est approché, il a goûté ce breuvage et il est entré dans la divinité de la dégustation du vin. Et voilà, ça s'est passé il y a très longtemps.
Quelles sont les premières traces avérées de vinification si l'on se réfère aux travaux du spécialiste de la préhistoire du vin, Patrick McGovern?
Tous les 6 mois, chaque année, on recule de quelques centaines d'années ces découvertes à mesure qu'on excave des sites. Je crois me souvenir que cette année, on remonte jusqu'à 6500 ans avant Jésus-Christ. Donc on s'approche peu à peu de l'époque du Néolithique où en fait l'homme a créé le vin parce que l'homme a créé les poteries. Il fallait des récipients pour faire les premières vinifications.
Et c'est en Anatolie qu'on domestique la vigne?
On pense que tout a commencé entre l'Anatolie, l'Arménie, enfin dans l'arc mésopotamien nord.
Il y a 5 à 10 000 ans, c'est ça?
Oui, exactement.
Alors la première vraie grande civilisation du vin, c'est l'Égypte. C'est le premier peuple à vénérer le vin comme une boisson sociale et sacrée.
Alors c'est non seulement le premier peuple à faire ça, mais c'est surtout le premier peuple à inventer la vinification en tant que procédé. Et je donne un seul exemple pour l'édification des auditeurs. Les Égyptiens ont inventé un truc incroyable, ça nous paraît incroyable, ils ont inventé les étiquettes. En fait, on a retrouvé dans les tombeaux des pharaons des jarres qui portaient des étiquettes et donc qui portaient la mention d'un vin et d'un lieu. Un peu comme une AOC de l'époque.
Et au deuxième millénaire avant notre ère en Égypte, on assiste aux premières socialisations par le vin, avec un culte du vin associé au dieu Osiris.
Exactement. Alors, comme le vin est un breuvage sacré qui est le monopole de Pharaon et de ses prêtres, ces braves gens de l'époque discutent des vertus des différentes origines des vins égyptiens. Donc il y avait une vingtaine de villes à l'époque, de cités où on pratiquait la vinification. Et donc c'est là que tout commence en fait. C'est là que commence cet acte social qui consiste à discuter du vin plutôt qu'à en boire. Comme disait Talleyrand, qui est beaucoup beaucoup plus tard, ce qui est intéressant avec le vin, en substance, il disait, c'est pas tellement de le goûter, c'est plutôt d'en parler entre nous.
Et à l'époque, déjà, un mystère entoure les secrets de la fermentation du vin.
Oui, parce qu'il faudra attendre Pasteur pour qu'on comprenne les mécanismes de l'ivresse. jusqu'à Pasteur, on ne sait pas quoi, comment ça marche, on est incapable de l'expliquer, et ce grand mystère sera levé 8000 ans plus tard. Donc,
Tiens, Amine Benyamina, c'est quoi l'ivresse? C'est quoi les mécanismes cérébraux de l'ivresse?
Bah, on a un système dans le cerveau qu'on appelle le système de récompense. On a eu l'occasion d'en parler souvent concernant tous les produits dits qui peuvent entraîner de l'ivresse. Et puis il y a une espèce de débordement par les neurotransmetteurs, notamment un qui s'appelle le GABA. Et lorsqu'il est, il y a une espèce d'inondation du GABA, donc un effet de délation, de sensation d'euphorie, de bien-être qui dure de manière très courte. Et ensuite arrive l'effet de torpeur et de sédation qu'on retrouve avec tous les produits qui a un effet de sédation. Et ça, c'est propre à tous les produits qui ont un effet de sédation. La drogue, elle peut soit exciter, soit ralentir. Mmh. Il s'avère que pour ce qui est de l'alcool, donc elle ralentit et elle peut avoir d'autres effets sur d'autres profils. Peut-être un mot, Ali, vous avez parlé de Patrick McGovern, juste un mot. Lorsqu'il a décrit cette histoire, il a montré que même les animaux étaient appétants à cette fermentation du raisin. Voilà.
Guillemets Tudicino.
Mais moi, je me demande à quel moment les Égyptiens, vous dites qu'il y avait déjà une histoire de terroir, pratiquement, c'est-à-dire que telle vigne par rapport à telle autre.
C'était des villes, c'était pas des terroirs.
Oui, voilà, enfin, en tout cas des villes. Donc avec des étiquettes,
oui,
donc telle origine ou telle autre, mais à quel moment ils ont commencé à vouloir perfectionner
une appellation, entre guillemets, enfin. Le perfectionnement, c'est un peu la civilisation d'après, comme on disait tout à l'heure, c'est les Grecs. Les Grecs, vraiment, ils commencent à travailler la terre, ils commencent à tailler la vigne, ils commencent à constater que tel vin est meilleur que tel autre, et que donc il faut privilégier telle espèce de raisin plutôt que telle autre. Donc ils inventent vraiment la vinification telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et on sait que dans la Grèce antique de Platon, on faisait du vin tel qu'on le faisait encore il y a un siècle en Grèce. C'est-à-dire, ça n'a pas bougé pendant 2500 ans. Donc c'est à ce moment-là que ça commence.
À partir de la seconde moitié du troisième millénaire avant notre ère, le peuple juif intègre le vin dans sa culture religieuse et certains considèrent même le vin comme le plus fidèle compagnon du monothéisme juif.
Oui, effectivement, la marche du monothéisme, donc du premier monothéisme, le monothéisme juif, s'est accompagné de symboles sacrés, très nombreux, et un des plus importants, on le lit dans le texte sacré, dans l'Ancien Testament, c'est la consommation et la vénération du vin. Quand les Hébreux entrent en Israël, souvenez-vous, il y a un épisode dans la Bible où les éclaireurs rapportent des grappes de raisins géantes, paraît-il. Bon. Et donc c'est un symbole très fort de l'alliance entre le puissant et ce peuple élu qui arrive sur la terre promise.
Alors, au deuxième millénaire, il y a un objet qui va permettre les prémices de la globalisation du vin, c'est l'outre.
Alors, oui, parler de l'histoire des contenants est très important dans le vin. Parce que, en fait, 80% de l'histoire du vin se fait sans la bouteille qu'on connaît, cette fameuse bouteille qu'on associe au vin. Mais l'histoire du vin, c'est pas la bouteille. L'histoire du vin, c'est l'histoire des outres de mammifères dans lesquels on plaçait ce breuvage. Et dont on se servait pour dans les offices religieux et à la table des puissants. Puis ensuite ça a été les amphores, puis ensuite ça a été cette invention extraordinaire qui est le tonneau de bois qu'on faisait en Gaule romaine il y a 2000 ans, exactement comme aujourd'hui, de la même façon, qui n'a pas changé. C'est la grande invention du vin.
Pourquoi c'est une invention extraordinaire, le tonneau?
Parce que à tout point de vue, c'est pratique à transporter, c'est idéal pour faire vieillir un jus de raisin fermenté, parce que c'est très solide pour protéger le breuvage, et surtout ça commence à lui faire passer l'année. Parce que pendant 5000 ans, le vin se buvait dans l'année, sinon il se devenait du vinaigre. On ne savait pas le faire durer, le faire vieillir. Sauf en ajoutant d'autres ingrédients, comme de l'eau de mer, comme du sucre, des épices de toutes sortes. Et là, on pouvait éventuellement aboutir à des gardes.
Beaucoup plus tard, une invention va permettre le transport maritime du vin. C'est l'invention de la bouteille en verre au XVIIe siècle, et on le doit aux Anglais.
Oui, les Anglais ont inventé beaucoup de choses dans la vinification moderne qui ont abouti à la situation actuelle. Ils ont inventé la bouteille, ils ont inventé le bouchon.
Bouchon en liège.
C'est pas
une invention anodine.
Ah ben bien sûr.
Expliquez-nous pourquoi.
Inventé le tire-bouchon.
S'ils ont inventé le bouchon, ils ont inventé.
Non
mais pourquoi c'est pas une invention anodine le bouchon en liège?
Parce que à partir du XVIIe siècle, on commence à se dire que des vins de qualité peuvent traverser le temps et qui seront encore meilleurs au bout de 5, au bout de 10, au bout de 15 ans. C'est à ce moment-là qu'on fait ce constat. et sans les bouchons de liège qui permettent un échange avec l'air extérieur, donc un minuscule apport d'oxygène dans le breuvage qui se garde. Sans ça, on n'aurait pas pu le faire.
Alors j'aimerais qu'on revienne à la Grèce ancienne. Ce sont les Grecs hein, qui érigent l'art de déguster le vin en rite social de premier ordre.
Oui, alors le symbole de ça, c'est Dionysos. Donc ce qui est très étonnant avec, avec la polygonie déiste grecque, c'est qu'ils ont tout un tas de dieux, ils en ont trop d'ailleurs, bon, même les Grecs ne savent pas combien ils en ont, et puis ils en inventent un dernier, qui est un demi-dieu, qui s'appelle Dionysos, parce que le vin devient tellement important dans les rituels grecs que il faut absolument avoir un dieu en plus pour le vin. Et tant qu'à faire, Dionysos devient aussi le dieu de la végétation qui repousse tous les ans, le dieu du théâtre, le dieu de la créativité, le dieu de l'ivresse aussi. Et c'est donc un personnage hyper important de la Grèce d'après Platon, d'après moins 500 avant Jésus-Christ.
Alors à propos de religion, hein, chez les chrétiens, le vin détient une place essentielle dans l'Eucharistie, c'est-à-dire l'acte de partage chez les chrétiens. Et ça va avoir une très grande importance dans l'expansion du vin dans le monde.
Oui, tout à fait. Alors ce qui est très étonnant, encore une fois, il y a beaucoup de choses étonnantes, c'est que tous les rituels grecs, en fait, ont été transposés dans les rituels chrétiens. Il y a beaucoup d'épisodes qu'on lit dans la Bible qui existaient chez les monades ou chez les prêtres grecs de l'époque. Par exemple, la transformation de l'eau en vin.
Dans les noces de Cana.
Dans les noces de Cana, hein, que tout le monde connaît. Ça existait aussi dans les rituels supposé grec.
Mais il y a cette idée dans les noces de Cana, dans la transformation de l'eau en vin, l'idée qu'il ne peut y avoir de réjouissance sans vin.
Oui, c'est exactement le résumé de ce qu'on dit depuis 20 minutes, c'est que le rôle social de facilitateur de cette boisson, qui a été considéré comme la meilleure pour cet exercice, se trouve inscrit dans le marbre de la Bible pour les 2000 ans qui viennent à partir de ce moment-là.
Guillemette Odissino.
Enfin, dans la religion chrétienne, c'est quand même c'est d'une puissance folle. C'est le sang du Christ.
Oui.
C'est-à-dire que là, on même l'expression en elle-même dans les autres religions, ce n'est pas aussi fort dans l'expression le sang du Christ.
Oui. Mais ça vient justement de cette tradition. Juive aux origines où cette boisson est exceptionnelle au regard de la relation de l'homme avec Dieu et donc ça devient le sang du Christ.
Amine Benyamina.
Oui, moi j'étais intéressé, j'ai pas eu l'occasion de lire votre ouvrage, Monsieur Simat. Simplement, je pense que cette interdiction, il faut le faire, je le ferai. Cette interdiction de l'alcool et du vin de fête dans la religion musulmane m'a toujours interpellé. Et évidemment, les légendes familiales disent que, je vous le dis parce que c'est ce que j'ai appris, que pendant la prière, il ne fallait pas se tromper de verset. C'est la raison pour laquelle on interdit l'alcool. Mmh. Évidemment, tout le monde ne partagera pas ce que je dis. Je n'ai pas le copyright, mais j'aimerais bien avoir votre tour.
Bah, écoutez, moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Je me réfère aux historiens de l'islam. Et c'est très intéressant parce que ça relativise beaucoup ces débats sur l'islam qui interdit absolument la bon. En fait, au départ, dans l'Arabie du 6e siècle, les gens sont juifs ou chrétiens avant d'être musulmans, la révélation de Mahomet.
C'est la dernière qui soit arrivée.
Donc, le vin est extrêmement présent dans la culture des élites de l'époque et même dans la culture des bédouins de l'époque qui transportent du vin depuis la Syrie antique jusque dans la péninsule. Et donc, au moment de la révélation à Mahomet, révélation progressive de verset en verset, où l'interdiction n'est pas absolue au départ, si je me souviens bien, mais elle devient absolue à la fin, et au départ elle est plutôt modérée. Mmh. À mesure que les sourates sont révélées, et que donc se forme le livre sacré, on voit que l'interdiction concerne le monde terrestre. Mmh. Par contre, il n'y a pas d'interdiction dans le monde, au paradis.
Ouais.
Et donc, en fait, c'est une sorte de frustration volontaire pour le fidèle sur terre, mais la récompense, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, la récompense c'est de pouvoir boire autant de vin qu'on veut au paradis. Mmh. C'est un peu comme l'histoire des 72 vierges qu'on entend beaucoup, mais en fait il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres promesses dans le paradis d'Allah, et le vin en fait partie.
Benoît Sima, Franck Dulot nous dit, mais je croyais que le dieu du vin était Bacchus.
Alors oui, c'est vrai. Bacchus, c'est la version romaine de Dionysos. Dionysos, c'est la version grecque, et Bacchus, c'est son nom romain.
Et c'est l'un des personnages de votre ouvrage ?
Alors oui, c'est le narrateur. C'est le personnage le plus connu dans le monde relativement au vin, hein, c'est Bacchus. Tout le monde connaît Bacchus, donc on a pris Bacchus comme narrateur pour ce livre.
J'aimerais qu'on rende hommage à un peuple oublié, les Allobroges, qui sont les pionniers de la viticulture gauloise.
Ah oui, alors ça, moi j'ai découvert ça en travaillant sur ce livre.
Les Allobroges.
Je ne connaissais pas, en toute modestie, les allobroges. Je les ai découverts en étudiant l'histoire des premières vinifications en Gaule romaine. Et effectivement, les allobroges, c'est un peuple qui était très puissant dans la France du sud-est de l'époque. Enfin, non, pardon, dans la Gaule du sud-est de l'époque. Qui se situait exactement au-dessus de la fameuse Narbonnaise, la province romaine gauloise. Et ils ont été les premiers à se dire, on va arrêter d'acheter du vin à Rome, on va créer notre vin. Et donc, ils ont été les premiers à faire des croisements de cépages. Oui, c'est ça. Ils ont été les premiers à faire des croisements de cépages afin d'adapter un cépage au climat montagnard des Alpes, qui était beaucoup plus rude qu'en Narbonnaise ou en Italie. Et ils ont créé l'ancêtre de la Côte Rôtie.
Ah ouais, c'est ça.
Alors, faisons un bond dans le temps. C'est au 19e et au 20e siècle que des écrivains gastronomes, des grands restaurateurs vont contribuer à faire du vin une boisson raffinée, un breuvage d'exception, un alcool pas comme les autres. Je pense évidemment à Bria Savarin, Kurnonski, Auguste Escoffier, ou encore Colette, hein. Colette, ouais, qui écrit « L'eau, c'est pour la soif. Le vin, c'est, selon sa qualité et son terroir, un tonique nécessaire, un luxe, l'honneur des mets. »
Eh bien, dans
mais
la grande
M-E-T-S.
Oui, pardon, excusez-moi. Dans la grande tradition des références au monde antique, en réalité, tous ces auteurs se réfèrent aux auteurs romains qui, dès le 1er siècle, à l'époque de Pline, je pense notamment à Apicius, hein, qui a été un grand penseur de la gastronomie. Déjà à l'époque, on chantait, on vénérait le vin en littérature et on érigeait le vin comme la boisson définitive. Hein, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Et en fait, ces auteurs français que vous citez ne font que reprendre ces chants de l'époque.
Et l'appellation d'origine, c'est une invention française ?
Ah oui, parce que vous savez, dans toute cette histoire, finalement, il y a assez peu d'inventions françaises. C'est ça qu'il faut retenir.
Oui, parce que les Anglais ont inventé la bouteille en verre, le bouchon en liège.
Le champagne.
En fait, c'est-à-dire les Gaulois ont inventé quelque chose de très important, c'est le tonneau, on en a parlé tout à l'heure. Mais à part ça, sincèrement, ils n'ont pas inventé grand-chose. Bon, si ce n'est, au XXe siècle, quelque chose de très important dans le vin contemporain, c'est l'appellation d'origine contrôlée. Pourquoi on a inventé dans les années 30 l'appellation d'origine contrôlée ? C'est qu'à l'époque, il y avait une fraude massive en Europe et notamment en France. On fabriquait du vin français à partir de vins qui venaient de n'importe où.
D'Algérie,
d'Afrique du Nord. Voilà. On faisait même du vin en laboratoire. Les physiciens de l'époque étaient capables de faire des faux vins qui étaient écoulés par hectolitres sur le marché. Ça rendait les gens malades. Ça a créé des émeutes en 1907, très graves, où il y a eu des morts, etc., etc. Et donc, on a créé ce référentiel mondial de terroir qui s'appelle l'AOC, que pour le coup, tous les pays du monde ont imité.
Guimetto Di Sino, vous aimeriez défendre un vin de terroir, le rosé, à boire avec modération.
Bien sûr,
évidemment.
Mais on est toujours dans la modération. Mais c'est vrai que moi, je suis née à Nice, j'ai grandi donc en Provence, et quand je suis arrivée à Paris, toute naïvement et que j'ai commandé pour la première fois un rosé dans un bar, bon, il y a longtemps, hein, on m'a rionné, cher monsieur. On m'a regardé avec un mépris absolument fou. Le rosé n'était absolument pas, il y a une dizaine d'années, à la mode. On passait pour des crétins, on nous disait que c'était pas du vin. Et aujourd'hui, j'ai lu la dernière phrase pratiquement de votre magnifique BD. C'est l'un des vins les plus consommés dans le monde. Mmh. Et dites-moi que c'est bon, le rosé. Mais alors, dites-moi.
Avec modération.
Avec modération. Mais dites-moi comment le rosé, en fait, est fait. Parce que même sur la naissance du rosé, les gens savent pas d'où ça vient.
Ouais. Alors déjà un chiffre, très important. Aujourd'hui, en France, le rosé, c'est 30% des ventes. 3 bouteilles sur 10, c'est du rosé.
C'est fou quand même.
À part du marketing, on en parlera.
Ouais, non,
pas
mais,
que
Il y a eu une croissance fulgurante de ce mode de consommation. Donc vous avez pris votre revanche sur ceux qui se moquaient de vous à l'époque, rassurez-vous. Après, comment on fait du rosé? C'est très simple. Il y a une technique pour faire le champagne rosé. Ça consiste à mélanger des rouges et du blanc. Bon, voilà, ça c'est le champagne rosé uniquement. Et après, en Provence, il y a un modèle où en fait, on fait saigner une cuve. Alors saigner, ça veut dire on met du raisin rouge et puis au lieu d'attendre que ça macère, on sort un jus qui est un peu clair et ça fait du rosé. Bon, voilà. Donc c'est pas forcément très simple de faire du rosé. Hein. Attention, hein. C'est un vin.
Oui, c'est compliqué. Même maintenant, dans le Bordelais, ils essayent d'en faire partout.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, les rosés deviennent plus chers que les rouges, notamment en Provence. Et ça, c'est quand même extraordinaire.
Marketing. Allez, on aborde marketing, juste après le disque. On aborde juste après le disque le débat. Le vin est-il un alcool comme les autres? 01 45 24 7000.
Le soir, déplie ses voiles sombres, enveloppe les toits, les trottoirs et les bois, personne ne nous voit. Infidèle égaré sur les pavés, au fond de nous, l'étincelle invisible à vos yeux, cet éclat vénéneux, des perles silencieux. Au fond de nous, l'étincelle dans le cas orageux, cet éclair dangereux des héros silencieux.
Etienne Dao interprété Burn.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Écoutons le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume.
Je ne crois pas que l'humain soit un alcool comme les autres. Vous savez, les jeunes qui se tuent.
Parce que les addictions.
Oui, oui, non, mais attendez, je vais vous répondre.
On ne parle pas de l'alcool.
Moi, je vais vous répondre. L'addiction à l'alcool est dramatique. Et notamment dans la jeunesse, avec le binge drinking, etc. Ouais. C'est dramatique. Mais je n'ai jamais vu, à ma connaissance, malheureusement peut-être, un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est sous parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône, du Croz-Hermitage, du Bordeaux ou des Costières de Nîmes. Jamais. Ils boivent d'autres. Ils boivent des mélanges, ils boivent des mix, ils boivent de l'alcool fort.
Mais il faut augmenter les prix de ces alcools forts, alors. Pourquoi est-ce qu'on les augmente pas?
Ça, c'est autre chose. C'est déjà très taxé.
Vous êtes favorable à l'augmentation?
Non, non, mais c'est pas moi qui vais augmenter le prix du cognac ou de l'armagnac. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut lutter contre toutes les addictions, mais il faut éduquer les Françaises et les Français et la jeunesse au bon, au beau.
Le vin n'est pas un alcool comme les autres, nous dit le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume sur RMC le 19 janvier dernier. Nous avons reçu énormément de messages comme celui d'un anonyme qui nous dit c'est quoi cette apologie au vin alors qu'il a été prouvé que le moindre verre d'alcool détruit notre corps. Honte à vous de faire cette apologie du vin. Béatrice, oui, le vin est de l'alcool, un alcool qui tue des milliers de personnes par an, et cela reste un tabou en France. France, malheureusement. Vincent, qui nous dit combien de morts par an en France liées à l'alcoolisme? En quoi l'éthanol contenu dans le vin est-il différent de l'éthanol contenu dans les autres boissons alcoolisées? Sophie nous dit, quand j'étais petite, je voyais les alcooliques au petit matin à travers les vitrines des bars de mon petit village au Savoyard, les mains tremblantes, en train d'enquiller leur premier ballon de blanc, l'alcool étant toxique, peu importe le packaging intellectuel. Professeur Amine Benyamina, vous buvez du petit lait, je rappelle que vous êtes addictologue. Dimanche dernier, dans le Parisien, dimanche, vous accusiez le ministre de l'Agriculture d'énoncer des contre-vérités. Vous parlez même de fake news. La première contre-vérité pour vous, c'est que pour la santé, pour le foie, pour le cerveau, le vin produit les mêmes dommages que les autres boissons alcooliques, comme la bière ou le whisky.
C'est la réalité. Dans le vin, il y a l'éthanol. D'ailleurs, il s'est repris et il s'est retrompé, notre ministre. Il y a de l'éthanol que l'on retrouve dans le cognac, dans le champagne, dans le cidre, dans le whisky. C'est ainsi, on n'y peut rien. Et c'est l'éthanol et non pas le vin, tel qu'on l'a cité en première partie d'émission, qui est responsable au sens où on peut l'entendre. C'est cette molécule qui crée des dommages dans le cerveau, dans le corps et même dans notre comportement.
De façon un peu naïve, est-ce que le foie fait la différence entre une molécule d'éthanol en provenance du vin et une molécule d'éthanol qui vient d'un verre de vodka?
Hélas, non. Pas plus tard qu'hier, je disais, les effets sur le foie, c'est Pétrus ou Villageoise, Kif Kif Borico, c'est la même chose, hélas. En revanche, et là, le vin est différent des autres. Tout le monde ne peut pas se payer le Pétrus. C'est la raison pour laquelle, si on augmentait le prix du vin, peut-être que les jeunes qui actuellement découvrent le vin en même temps, parce que c'est une partie de notre culture, accéderaient moins précocement à cette consommation.
Benoît Sima.
C'est vrai que le vin est extrêmement moins taxé que les autres alcools. Hein. Je crois que c'est un rapport de 1 à 15. Ou un vin. Et donc on pourrait imaginer réformer ça, pourquoi pas.
Deuxième contre-vérité, Amine Benyamina, les jeunes ne se saouleraient pas avec du vin. Et c'est pas forcément vrai si on se fie aux chiffres officiels de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies.
Le vin, les jeunes se saoulent au vin parce que le vin n'est pas cher. Et alors, je vous invite à aller vous balader le week-end, ou bien vous verrez que les vins sont déjà servis dans des gobelets, dans les boîtes de nuit entre guillemets, on sert du vin de plus en plus. Il y a un vin célèbre, c'est le champagne. On oublie que c'est du vin. Il n'y a pas que ça, on sert du vin. Et évidemment, ce qui est assez cocasse, c'est que notre ministre cite des vins de sa région, la Drôme. Faut-il encore se poser la question? Bon, écoutez, les chiffres sont têtus. Je ne vais pratiquement rien dire d'autre qu'il aille sur le FDT.
Guillemette Audicino.
Oui, et puis il y a quelque chose de pervers dans le vin. C'est-à-dire qu'effectivement, la société estime presque que c'est normal d'aimer ça. Donc les jeunes... Moi, je sais très bien, j'ai entendu dans ma famille des jeunes qui disaient « Ah, c'est dommage, j'aime pas le vin ». On n'entend jamais dire « c'est dommage, j'aime pas le whisky ». Et presque, on a l'impression qu'ils vont se forcer pour aimer le vin, parce que ça se fait d'aimer le vin, en France particulièrement. Et après, c'est du coup une boisson aussi pas chère, avec laquelle ils peuvent se saouler. Donc il y a aussi une pression sociale, on a l'impression.
Excellente remarque de Guillemette. Ce n'est pas le fait du hasard. Le vin qui était l'alcool de l'homme d'âge mûr, un peu... bedonnant est devenu une boisson tendance. Et ce n'est pas le fait du hasard, c'est un travail qui a été fait par le marketing du lobby.
Troisième fake news, selon vous, Amine Benyamina, troisième fake news du ministre de l'Agriculture, celle sur les bienfaits de l'éducation au bien boire.
Ça, c'est un magnifique travail du marketing. C'est qu'on part du principe qu'il faut apprendre aux jeunes à bien boire. C'est ce qu'on appelle l'éducation, parce que je l'ai entendu partout. Dans l'esprit qui est le nôtre et dans l'absorption qui est le nôtre, c'est ce qu'on appelle l'initiation. Et l'initiation, c'est extrêmement dangereux parce que plus vous initiez à une consommation d'alcool jeune, plus vous augmentez les risques d'être appétant et même dépendant, et plus vous initiez jeune et plus vous détruisez vos cellules du cerveau qui continuent à maturer jusqu'à l'âge de 23-24 ans.
Quatrième contre-vérité, selon vous, seule la dépendance est dangereuse, nous dit le ministre. L'alcool est à risque dès le premier verre?
L'alcool est à risque dès le premier verre, et ce n'est pas moi qui le dis. Il y a une revue extraordinaire qui même a été citée par le président, après le Salon d'Agriculture, c'est la revue du Lancet, qui a montré que statistiquement, il y a un risque de consommer dès le premier verre parce que le risque augmente. Et d'ailleurs, les nouveaux repères de Santé publique France sont sortis il y a 3 jours. Les gens peuvent y référer sur Internet.
Bonjour Étienne Gernel.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes directeur de l'hebdomadaire Le Point. Alors vous, vous contestez l'étude de la revue The Lancet et ses conclusions sur le premier vers.
Déjà, il faut quand même signaler que The Lancet traîne un certain nombre de casseroles scientifiques considérables, notamment des études bidonnées sur l'autisme qui avaient fait scandale en leur époque. C'est pas moi qui le dis, hein. Moi je suis pas scientifique, c'est des scientifiques qui disent ça. Et en l'occurrence, l'étude de Lancet a un biais terrible, c'est qu'elle ne pondère pas par l'âge. Or, on le sait, il y a des maladies qu'on contracte âgées, les maladies cardiovasculaires notamment, ce qui fait qu'à la fin, si vous lisez, en la lisant l'étude de Lancet, vous pouvez aussi regarder que l'absorption de boissons alcoolisées est corrélée à l'espérance de vie. Bah oui, bah parce que c'est les consommations du Nord qui en consomment le plus, et c'est là où l'espérance de vie est la plus longue, et dans les pays où l'espérance de vie est courte, on meurt moins de maladies cardiovasculaires. Donc cette étude est tout à fait contestable et contestée, et je m'aperçois qu'elle est citée dans la tribune du Parisien docteur Benyamina et de comment il s'appelle, Bernard Basset. Et je m'étonne que vous ne soyez pas renseigné un tout petit peu sur la crédibilité de cette étude. Après, ça n'empêche pas que tout le monde sait que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Hein. Amine Benyamina. Alors, deux éléments, deux remarques sur la vôtre. D'abord, le Lancet, et c'est très compliqué quand même de contester le sérieux du Lancet. Toutes les revues peuvent parfois faire passer des papiers qui sont caviardés, pour faire court. Bon, ça, c'est extrêmement important. Deuxième élément, en dehors de l'étude du Lancet, puisque vous avez pointé un élément important, toutes les méta-analyses ont montré qu'il y a une perte de l'espérance de vie cumulée d'à peu près 20 ans lorsqu'on est consommateur régulier d'alcool. Sans pour autant, et je réponds à votre question, Alice, sans pour autant être dépendant. On peut avoir une cirrhose du foie en consommant de l'alcool de manière modérée régulièrement et se découvrir une lame d'acide un beau matin.
Étienne Gernel, rapidement, pour vous, l'argument du point de vue du foie, le vin, c'est de l'alcool, c'est exact, mais c'est un peu absurde.
Bah, c'est absolument exact, et c'est aussi exact, par exemple, que d'affirmer qu'un livre c'est du papier, ou qu'un violoncelle c'est de l'érable et des bicéas. Bah, évidemment, comme chacun sait, Flaubert, Rostropovitch, c'est deux acteurs de la filière bois, c'est le lobby du bois, hein. Si on vous écoute, si on écoute les nouveaux prohibitionnistes, c'est le lobby du bois. Attention à la négation de la culture, du plaisir et de la vie. Voilà, ça fait aussi partie de ça. Non. Attention à ne pas se transformer en puritain. Évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, personne ne le nie, c'est une évidence absolue, mais on n'a pas besoin pour ça ni d'être prohibitionniste, ni de s'appuyer pour aller un peu plus loin sur des études très contestables comme celle de The Lancet. Regardons juste les faits qui sont observables, ils
réponse
sont assez
rapide.
Forts. Pour dire que
réponse rapide. Et réponse rapide. D'abord, nous ne sommes pas des prohibitionnistes parce que on a vu ce que la prohibition a donné aux États-Unis.
Oui,
nous ne sommes pas des hygiénistes. Nous voulons simplement que l'information qui est partagée par tout le monde dans le monde scientifique arrive aux Français. Force est de constater, ce n'est pas le cas. Puisque vous êtes connaisseur, regardez ce que le plan addiction a donné.
Merci.
Rien du tout sur le volet alcool.
Merci beaucoup, Étienne Gernel, directeur du Point. Un mot, Benoît Simard.
Ouais, ce qui est étonnant dans ces histoires qui ressurgissent, dans ces débats, hein, qui ressurgissent tous les deux ans, c'est qu'on a toujours, le méchant qui est le ministre de la Santé qui dit que, attention, au premier verre, vous êtes mort. Et puis le gentil, le ministre de l'Agriculture, qui dit, non, mais attendez, quand même, le vin, c'est pas pareil. Donc il y a aussi cette récurrence qui prouve quand même, par l'absurde, que c'est vrai que le vin, c'est pas un débat.
Le gentil, ça dépend du point de vue qu'on adopte, évidemment.
Bien sûr.
Bonjour, Laurence Côté.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes une ancienne addicte à l'alcool. Vous avez fêté mercredi vos 10 ans d'abstinence. Le vin est-il pour vous un alcool comme les autres?
Oui, bien sûr. En fait, oui et non. Alors, oui, et j'affirme, moi je me saoulais au vin. Mmh. Si j'ai démarré étant jeune avec des alcools forts, il n'empêche que à la fin et dans ma période d'alcoolisme, je me saoulais au vin. Donc, le vin est un alcool comme n'importe quel autre alcool et il peut être dangereux. Par contre, et ça c'est la deuxième partie de ma question, non, le vin est un peu différent des autres alcools, et depuis le début, j'écoute votre émission, vous avez retracé toute l'histoire du vin. Et on se rend bien compte qu'en France, il y a une vraie histoire, et il faut donc respecter les savoir-faire, et notamment toutes les personnes qui vivent de la production, de la distribution de ce vin. Et il faut donc que cette réponse négative, oui, le vin, c'est un alcool et c'est dangereux, mais par contre, le vin, il faut également le respecter parce que des gens vivent de cela et 9 dixièmes des Français le dégustent ce vin à petites gorgées et n'en abuse pas. Donc il faut que ce oui et ce non puissent se coïncider afin d'arriver à faire passer des messages au public. Et là, Amine Benyamina l'a très bien dit, il est important de faire comprendre au public qu'il faut s'éduquer au bien boire, quel que soit l'alcool. Et là, j'en profite pour rappeler les règles qui nous sont tombées il y a 3 jours. Ces règles sont simples, pas plus de 10 verres
par semaine.
Quelques jours d'abstinence et pas plus de 2 verres par jour. Et je rappelle, ce sont des verres standards, c'est-à-dire 10 grammes d'alcool dans le verre et non pas les verres qu'en général on se sert ou que l'on voit dans les films, mais à mon avis on est à 30-40 grammes.
Laurence
voilà
Côté,
ce qu'il faut, je pense, que l'on fasse aujourd'hui.
Laurence Côté, j'aimerais que vous veniez dans l'émission pour expliquer votre chemin pour arrêter l'alcool. C'est un chemin assez passionnant et assez extraordinaire. Moi, je vous invite dans les prochaines semaines à venir dans Grand Bien Vous Fasse. Merci d'être intervenue, en tout cas, Laurence Côté. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, vous avez une question, vous appelez de Corbeil-Essonne, une question très précise.
Oui. Vous avez en partie répondu déjà à ma question. Je suis famille d'alcooliques et j'aurais voulu savoir s'il y aurait un intérêt, dans le cadre de la maîtrise justement de l'alcoolodépendance et de ses conséquences, à substituer le vin et son alcool au whisky ou autre alcool fort habituellement consommé par une personne malade de l'alcool.
Amine Benyamina, très bonne question de Sylvie.
Il y a la prise en charge, c'est compliqué, hein, la prise en charge qui se fait sur les 3 volets, psychologique, et l'environnement. Chaque personne qui a un problème avec l'alcool est une personne qui est singulière. Et donc la solution ne vient pas sur une prescription, encore moins, il n'y a pas de médicament, mais prendre en compte la photographie du cadre, de l'environnement et l'aider dans son cadre précis.
Benoît Sima, pour terminer, à quoi ressemblerait pour vous une vie sans vin?
Écoutez, moi je pense que c'est tout à fait possible. C'est un plaisir, mais comme tous les plaisirs, on peut se l'interdire pour diverses raisons, des choix personnels. Après, j'espère que ça ne m'arrivera jamais, mais...
Merci beaucoup Benoît Sima. Je recommande la lecture sans modération de votre BD, L'incroyable histoire du vin, qu'on soit buveur ou non, c'est très intéressant. C'est publié aux Arènes BD. Merci Amine Benyamina d'être venu débattre, et merci Guillemette Odissino.
Oui, simplement pour dire que, vous voyez, on n'est pas contre le vin. Ce soir, c'est l'anniversaire de nos 2 filles et nous allons boire.
Oui, tout à fait. Donc, on leur souhaite un bon anniversaire.
Vous l'avez pas fait. C'est vos filles respectives.
On s'est rendu compte tout à l'heure.
Vos filles respectives. Merci à la documentation de Radio France, aux standardistes de France Inter et à l'excellente programmation de Muriel Pérez. Merci à nos stagiaires de 3e de cette semaine, Yuna, Solène et Lily, très très impliqués. Merci d'être passés dans l'émission. Lundi, on s'intéresse à l'immunothérapie des cancers. Nous verrons les espoirs que suscite cette nouvelle thérapie. Nous attendons toutes vos questions au standard de France Inter, 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. À 12h45, vous pourrez écouter le jeu des 1000 euros animé par Nicolas Stoufflet, une spéciale BD avec Sonia De Villers, Rebecca Manzoni, Antoine Decaune et votre serviteur qui, j'espère, ne se ridiculisera pas. À la technique ce matin, Nicolas Cazot et Rémi Sistiaga. À suivre Nagui et sa bande originale.